Radio Kapi.
À la présentation du journal, Pascal Masserica.
À la une ce soir, le procureur général près la Cour constitutionnelle veut obtenir du Sénat l'autorisation de poursuivre Augustin Matata Ponyo, ancien Premier ministre. C'est dans l'affaire de dédommagement des commerçants étrangers victimes de la zaïrianisation. Le député national Jackson Aoussé a déposé ce mardi à l'Assemblée nationale une motion en vue de l'interpellation du ministre de la Défense nationale. L'élu du Rumu déplore le fait que malgré l'état de siège, ce territoire de l'Ituri est sous contrôle des forces négatives depuis 3 jours. Notre invité, c'est le professeur Gilbert Tshibangu, l'initiateur de la résidence médicalisée ResMed. Cette structure prend en charge les personnes de troisième âge. Après 61 ans d'indépendance de la RDC, il affirme que l'État congolais ne s'est pas occupé de la prise en charge médicale de ces personnes. Madame, Messieurs, bonsoir. Un nouveau réquisitoire du procureur général près la Cour constitutionnelle en vue d'obtenir l'autorisation de poursuite du sénateur Augustin Matata Ponyo sur le bureau du président du Sénat. L'ancien Premier ministre est de nouveau poursuivi dans l'affaire de dédommagement des commerçants étrangers en 1973 et 1974, victimes de la zaïrianisation. La lettre du procureur déposée le 24 juin dernier précise que Matata Ponyo avait ordonné à l'époque le décaissement de plus de 110 millions de dollars américains et près de 28 millions de dollars entre 2012 et 2013. N'est-ce pas, Michel Kifindangoy?
Moins de 2 semaines après le rejet par le Sénat de la demande de levée des immunités du sénateur Matata dans l'affaire Bukangalonzo, le procureur, près la Cour constitutionnelle, revient à charge. Cette fois-ci, Jean-Paul Mukolo accuse Matata d'avoir dédommagé 300 prétendus anciens propriétaires qui auraient perdu leurs biens du fait de la zaïrianisation et dont aucun dossier n'est retrouvé à la Direction générale de la dette publique. Il s'agirait donc des dossiers fictifs montés dans l'unique but de détourner les fonds publics, ajoute le procureur qui déplore les décaissements en 2012 et 2013 de près de 111 millions de dollars et plus de 27 millions d'euros au bénéfice d'une liste de ses acquéreurs. Le sénateur Matata est indexé pour avoir signé en tant que ministre des Finances, le protocole d'accord avec des créanciers fictifs et avoir ordonné le paiement pendant qu'il était devenu Premier ministre, ajoute le procureur Jean-Paul Mukolo. Afin de reprendre l'enquête qui avait déjà été ouverte en 2013 à la demande du président Kabila sur ces dossiers, le procureur sollicite au Sénat d'autoriser l'instruction à charge de Matata pour détournement des deniers publics.
Merci Michel Kifindangoy. Le président du Sénat s'est dit vivement préoccupé par la précarité du train de vie des Congolais et invite par conséquent le gouvernement à améliorer cette situation. Dans son discours tenu hier lundi à la fin de la session parlementaire de mars, Modeste Batilukwebo a justifié l'amplification de la misère des Congolais par l'insécurité à l'est du pays, l'éruption volcanique de Goma et la pandémie du coronavirus. Parlant du travail parlementaire, il se félicite du vote de plusieurs lois, dont celle réformant la CENI et plaide pour l'organisation des élections générales, en commençant par les locales. Ces propos ont été recueillis par Michel Kifindangoy.
S'agissant des préparatifs des élections qui pointent à l'horizon 2023, notre souhait est que le moment venu, le gouvernement dégage des moyens conséquents pour leur effectivité et pour l'organisation préalable du recensement tant attendu. La CENI, pour sa part, devra nous présenter un calendrier où la priorité sera accordée à l'organisation des élections locales pour rendre effective la décentralisation, socle du développement dans les entités locales. Il ne faut pas que les Congolais se posent toujours la question de savoir pourquoi les processus électoraux n'ont pas abouti à l'organisation des élections locales pourtant prévues dans le calendrier de la CENI. Il faut que nous revenions à la légalité en cette matière.
Et puis, la sécurisation des frontières communes entre la RDC et le Burundi, au menu de l'audience accordée hier lundi à Goma par le président Félix Tshisekedi Chilombo au ministre burundais des Affaires étrangères. À l'issue de cette audience, Albert Shigiro s'est confié à la presse du gouvernorat.
J'étais porté des messages particuliers, spéciaux à son homologue congolais, un message de paix, un message d'amour, un message qui vise à promouvoir les relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays, un message qui vise à cimenter davantage, comme vous le savez, le Burundi et la RDC entretiennent des relations bilatérales très nourries, en bonne santé, mais comme vous le savez, en termes de relations bilatérales entre les États, il y a toujours une place à l'amélioration. Nous avons donc amené ce message dans ce sens-là pour cimenter davantage, un peu comme un champ de fleurs qui nécessite d'être arrosé, d'être sarclé à tout moment pour que le champ de fleurs puisse rester en situation de bonne santé. Donc nous aussi, nous essayons maintenant d'arroser, de sarcler nos relations pour les renforcer davantage dans l'intérêt de nos peuples respectifs.
Je rappelle que le président Félix Tshisekedi séjourne à Goma au Nord Kivu depuis plus de 2 semaines. On reste au Nord Kivu où le gouverneur de province vient de renforcer les mesures pour lutter contre la 3e vague du coronavirus. Dans un arrêté signé hier lundi, le lieutenant général Constant Dima parle de la montée des cas de contamination locale et le risque élevé des cas importés suite au trafic intense entre cette province et les villes affectées par la pandémie. Pour en parler, retrouvons à Goma Sifa Maguru.
Certaines dispositions de cet arrêté se retrouvent dans les mesures prises au niveau national par les chefs de l'État le 15 juin dernier, entre autres le couvre-feu, la fermeture des discothèques et le respect des gestes barrières. Cependant, le gouverneur du Nord Kivu renforce à nouveau les mesures dans les domaines des transports locaux, interprovinciaux et internationaux, dans les églises, les hôpitaux et les commerces. Un extrait de ces mesures lu par le porte-parole du gouverneur, le général Sylvain King.
Le maintien et le renforcement du couvre-feu sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu de 21h à 5h du matin. Le port correct et obligatoire du masque pour les transports en commun et véhicules privés embarqués les nombres suivants. Grand bus de 32 places, 25 passagers. Petit bus IAS de 16 places, 14 passagers. Taxi-voiture. 3 passagers.
Les cadres de base et les services de sécurité sont appelés à faire respecter ces mesures susceptibles de modifications selon l'évolution de la situation épidémiologique, précise cet arrêté. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Et puis, 200 ménages des sinistrés de l'éruption volcanique de Nyiragongo ont reçu ce mardi des vivres et des non-vivres, dont du personnel de la MONUSCO. Ce geste et des compassions rentrent dans le cadre d'une campagne dénommée « La main sur le cœur », affirment les agents de l'unité du bien-être et loisirs de la mission onusienne. Un reportage de Bernard Denyangui.
Au moins 100 ménages des sinistrés représentés par les handicapés et les femmes enceintes ont été les premiers à bénéficier de cette assistance en ce jour du lancement de la distribution. Ceux-ci n'ont pas caché leur satisfaction. Témoignage.
On m'a donné un matelas, du sucre, du sel, du riz, des haricots, de l'huile et une paire de draps. Nous dormions à même les sols et trouver à manger était difficile. Nous sommes cantonnés à l'Institut Mugara à Kanyaruchinya. La MONUSCO vient vraiment de nous aider car nous dormions sur les déchets des haricots. Maintenant, j'ai un matelas.
Certains membres du personnel de la MONUSCO, civils, militaires et la police, on réunit environ 18 000 dollars pour cette assistance, dit M. Saad Adoum, chef du bureau du chef adjoint de la MONUSCO à Goma.
Vous savez, un certain nombre de résidents de Goma ont été durement affectés. Et au niveau de la MONUSCO, l'association du personnel s'est réunie et lancé une collecte. Et aujourd'hui, cette remise symbolique était le résultat de cette collecte-là.
Avec comme slogan « Mets sur le cœur », cette campagne de mobilisation des fonds pour l'assistance aux sinistres de l'éruption du 22 mai, a pour objectif de renforcer les liens entre la mission et la population locale. La distribution se poursuit durant la semaine. Goma, Bernard Dignagui, Radio Okapi.
On enchaîne avec l'Ituri où la situation sécuritaire est de plus en plus dramatique et préoccupante à Irumu. Les députés nationaux déplorent le fait que malgré l'état de siège dans cette province, ce territoire est sous contrôle des forces négatives depuis 3 jours. Pour cela, le député national Jackson Aoussé a déposé ce mardi au bureau de l'Assemblée nationale une interpellation du ministre de la Défense nationale pour obtenir ses explications sur la montée de l'insécurité dans cette partie du pays. L'élu Dirumu rappelle qu'une vingtaine de personnes ont été tuées en 3 jours et plus de 50 maisons incendiées. Il s'est confié à Michel Kifinangoy.
La situation sécuritaire de l'Ituri en général, des territoires d'Irumu en particulier, est dramatique. Depuis 72 heures, l'ennemi a créé les attaques contre la population civile. Jusqu'à présent, il n'y a pas de riposte à la hauteur de la menace. C'est pour cette raison que je viens de déposer une interpellation contre le ministre de la Défense pour qu'il puisse venir nous fournir des explications pertinentes de la cohabitation de l'état de siège et des menaces des groupes armés étrangers ou locaux contre la population. Il faut qu'il vienne nous expliquer parce que je vous informe que toute la partie sud-est du territoire du Rumu est sous contrôle. Le territoire du Rumu n'existe pas à ce moment où je vous parle. Le bilan est très lourd. Les maisons incendiées, le nombre surpasse 50. Les personnes tuées dans 72 heures, plus de 20 personnes. Les personnes apportées donc kidnappées, le nombre est très élevé. Nous ne comprenons rien. La population est jetée dans la rue sans avenir.
Un calme s'observe par ailleurs ces deux dernières semaines dans les différents quartiers de la ville de Bounia en Ituri. Les vols à main armée sont devenus rares, les cambriolages, les assassinats et les coups de feu. Certains habitants et la société civile saluent les efforts consentis dans l'amélioration de la situation sécuritaire, ce qui permet aux habitants de vaquer à leurs occupations même pendant les heures tardives. Radio Okapi Bounia, Martial Kizabiamungu.
Bounia et ses quelques 2 millions d'habitants passent ce dernier temps des nuits paisibles, alors qu'il ne se passait pas une seule nuit sans qu'on attende des crépitements de balles ou qu'on enregistre des assassinats et des cambriolages. Selon des habitants, c'est les résultats de l'état de siège et l'intensification des patrouilles dans la ville qui ont permis d'appréhender certains bandits armés. La coordination de la société civile de l'Ituri, quant à elle, souhaite que cette accalmie soit également imposée à l'intérieur de la province, notamment dans les territoires de Djougou, Irumu et Mambasa, où les groupes armés nationaux et étrangers sont très actifs et terrorisent la population. Son coordonnateur, Dieudonné Lossa.
Calmi qu'on est en train d'observer à vie de Bounia. On peut l'observer un peu partout. Je crois que la population se sentira à l'aise.
Les commandants de la police dans la province de l'Ituri met ses succès sur les comptes de la collaboration avec la population. Le général Ngoyi Sengeloa Kio.
La gestion de la sécurité, que ce soit à Bounia ou ailleurs, c'est une affaire de tout le monde. Il faut que la population collabore avec nous.
Retenez qu'en espace de mois, selon la police, plus de 30 présumés criminels ont été arrêtés et une trentaine d'armes a été récupérée dans la ville de Bounia et ses environs. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Revenons un instant au Nord Kivu où les services de sécurité ont fouillé systématiquement ce mardi tous les marchés de la ville de Beni. Ces édifices ont été fermés par l'autorité locale depuis deux jours après l'explosion de deux bombes artisanales dimanche, l'une dans la paroisse catholique de Boutsili et l'autre au quartier Mabakanga. Autre nouvelle sur Radio Okapi, l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga tend la main aux miliciens Bakata Katanga. C'est l'une des résolutions prises au cours du conclave pour la paix qui a fermé ses portes hier lundi à Lubumbashi et qui a réuni les représentants des habitants de cette province. Le compte-rendu de Jean Gandou.
La grande annonce faite au cours de ce conclave était sans nul doute la main tendue de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga aux miliciens Bakata Katanga. Antoine Gabriel Kyungu Akumwanza. Nous demandons à tous ceux qui se disent des Bakata Katanga de venir nous voir à l'Assemblée provinciale, d'ouvrir leur cœur et de nous dire quelles sont leurs revendications. Car nous ne voulons pas de problème dans notre province, nous voulons la paix et rien que la paix. Pour le président de cet organe délibérant, le Haut-Katanga aspire à la paix et à la concorde, car sans la paix, il n'y a pas de développement. Au gouvernement central, les participants ont recommandé notamment d'améliorer les conditions de vie dans les milieux ruraux pour éviter un flux migratoire incontrôlé qui fait qu'une fois arrivés dans les grandes villes, les jeunes sans emploi s'adonnent à des actes répréhensibles qui favorisent l'insécurité. Au gouvernement provincial, de faire en sorte que les acteurs politiques tiennent des discours en toute responsabilité. À l'Assemblée provinciale, de faire un lobbying au gouvernement central pour l'amélioration des conditions des hommes en uniforme. Et pour une paix durable, ils ont invité les acteurs politiques à éviter les discours à caractère tribal tendant à exacerber la haine. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Un jugement sans précédent en Afrique du Sud. L'ancien président Jacob Zuma a été condamné à 15 mois de prison ferme pour outrage à la justice. Le verdict très attendu de la Cour constitutionnelle est tombé ce mardi. Poursuivi dans plusieurs affaires de détournement et de blanchiment d'argent, Jacob Zuma était cette fois-ci jugé pour son refus de comparaître devant une commission anticorruption. Retournement de la situation spectaculaire au Tigré dans le nord de l'Éthiopie, la région en guerre depuis le mois de novembre dernier a été le théâtre hier lundi d'une vaste offensive de rebelles tigréens qui ont à l'occasion investi la capitale provinciale Mekele, un camouflet important pour l'armée éthiopienne et le gouvernement d'Abiy Ahmed. Les forces tigréennes semblent être en mesure de contrôler d'autres villes.
L'invité.
Notre invité, c'est le professeur Gilbert Tibangou, l'initiateur de la résidence médicalisée ResMed, meilleur grand-papa Étienne Tshisekedi. Cette structure prend en charge les personnes de troisième âge. Après 61 ans d'indépendance de la RDC, il affirme que l'État congolais a abandonné ces personnes en ce qui concerne leur prise en charge médicale. Il s'entretient avec Alain Rungumushige.
Professeur Gilbert Tibangou, bonjour.
Bonjour et bonjour aux auditeurs.
Quel bilan dressez-vous 61 ans après de la situation sanitaire des personnes de troisième âge en RDC?
Merci beaucoup pour la question. En commençant ce projet de personnes de troisième âge, nous avons découvert beaucoup de défis à relever. Nous avons essayé et aujourd'hui, on peut vous dire que 61 ans après, on constate que ces personnes ont été abandonnées ou sont encore abandonnées. Et il faut travailler dans le sens de leur accompagnement digne. C'est ce que nous avons fait chez ResMed+. Alors, 61 ans après l'indépendance, le plus important, c'est ici l'occasion pour nous de dire que nous apportons une résidence médicalisée au sens noble du terme. Il y a l'hébergement, il y a la restauration et la surveillance médicale. Donc, toute personne âgée qui vient chez nous est prise en charge correctement parce que nous avons des médecins professionnels, des infirmiers et laborantins qui, au quotidien, font le suivi médical de ces personnes. Et ce qui a manqué depuis l'indépendance.
On se souvient que dans ce pays, dans les années 60, 70, voire même 80, il y a des étrangers qui venaient se faire soigner ici. Et donc, on peut dire, comme vous le confirmez, que ces personnes ont été abandonnées et par l'État et par leur famille.
Exactement. Il y a même des familles qui se permettent de jeter des parents. Si vous courez ce que vous appelez les hospices ici, vous allez trouver des parents qui ne savent même plus où se trouvent les enfants. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Nous avons innové dans le sens que ces parents sont couverts par des garants. C'est des enfants qui viennent chez nous et qui signent des contrats. Nous en exigeons trois qui signent des contrats. Ça dit, si un est défaillant, les deux autres ne peuvent pas être défaillants, je vais dire. Et nous faisons signer ce contrat. En cas de problème, nous recourons à ces trois garants. Ce n'est pas le cas avec les hospices qui existent. Donc, nous avons amélioré. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut être fier de dire, voici un modèle.
Avec ResMed, vous avez organisé plusieurs consultations gratuites. Que faut-il, selon vous, pour qu'aujourd'hui, la RDC accède à la couverture sanitaire universelle pour les personnes de troisième âge?
Nous avons organisé 3 mois de gratuité. C'était dans 39 jours où les personnes venaient pour des imageries échographiques. Et le 30 juin, nous présentons officiellement notre rapport. Et ce rapport indique ceci, pour ne pas trop entrer en détail, que nous avons reçu plus ou moins 656 patients. Et le coût de cet investissement est de 31 752 dollars, ce qui représente 0,04% du montant alloué au ministère de la Santé par le budget de l'État. Le montant alloué est de 726 741 510 000 dollars. Ça, c'est le montant alloué. Ce que nous avons investi comme coût représente 0,04%. Donc, ne pas aller vers la couverture sanitaire universelle, c'est un péché. Nous pouvons commencer tout de suite. Et c'est là que, moi, je dis, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, a eu raison de vouloir offrir à son peuple la couverture sanitaire universelle. Parce que là, la ResMed vient de donner des chiffres sur base des réalisations. Ce n'est pas que nous avons inventé des choses. Nous donnons ici des chiffres vrais.
Vous parlez de plus de 30 000 dollars investis. Où avez-vous trouvé cet argent? Puisque pendant plus de 60 ans, l'État congolais a abandonné, avez-vous dit, les personnes de troisième âge en ce qui concerne leur santé.
Beaucoup des gens se demandent comment on a eu l'argent ou comment on fait pour avoir l'argent. Il y a des gens de bonne volonté. Il y a des gens charitables comme Cyril Mutombo, le DG de Kibali Gold Mining, et Samuel Feni. Ces gens nous ont accompagnés. Ils nous ont aidés avec des moyens. Et la structure elle-même aussi s'est prise en charge. Donc, à toutes ces personnes, nous nous disons merci. Mais je reviens sur le fait que c'est faisable.
S'il y a d'autres personnes de bonne volonté qui souhaitent vous contacter ou participer à cette bonne action pour la prise en charge sanitaire de personnes de troisième âge, quels sont vos contacts?
Le téléphone, d'abord, WhatsApp, 099 99 20 259, 082 459 15 89, ou encore nous écrire par notre email resmedplus.65ans@gmail.com, ou encore nous écrire par infoletter sur notre site web www.resmedplus.com.
Professeur Gilbert Sibangou Sibangou, merci d'avoir accepté notre invitation.
Heureuse fête d'indépendance à vous et surtout au chef de l'État qui va nous offrir la couverture sanitaire universelle. Parce que là, je lui amène de preuves de comment on peut faire.
C'était l'invité de Radio Okapi, le professeur Gilbert Tshibangou, l'initiateur de la résidence médicalisée RESMED. Meilleur grand-papa, Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Il était interrogé par Alain Rung Mushige. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir écouté. À Kinshasa, il est 18h20. Noël Aluzitu Kabambi l'a coordonné sous la supervision éditoriale de Pelikipela Mondo. Retrouvez ce journal sur www.radiookapi.net et sur les différentes plateformes numériques de Radio Okapi. Nana Bolojoa, c'est à vous.